Les quatre tops, voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, les suites de l'explosion qui a secoué hier le 9e arrondissement de Paris. Explosion qui a fait 3 morts, 2 pompiers et une touriste espagnole. À suivre le 9e samedi de manifestation des Gilets jaunes, un 9e acte marqué par un regain de mobilisation et une diminution des débordements. Des Gilets jaunes qui visiblement n'attendent pas grand-chose du grand débat national qu'Emmanuel Macron le proposera aux Français dès mardi. Emmanuel Macron au cœur d'un livre dont vous recevrez les auteurs à 8h20, Eric Delvaux.
Oui, les deux journalistes politiques Nicolas Domenach et Maurice Safran, ils signent « Le tueur et le poète », ce sont les deux visages d'Emmanuel Macron. Le livre vient de paraître aux éditions Albin Michel.
Auparavant à 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard avec au sommaire une deuxième victoire beaucoup plus franche pour les handballeurs français hier soir face aux Serbes dans le cadre du championnat du monde.
France Inter.
Des murs éventrés, des vitres brisées, une boulangerie heureusement fermée, entièrement dévastée, des voitures retournées et carbonisées. L'explosion qui s'est produite hier matin autour de 9h, rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. Explosion, semble-t-il, imputable à une fuite de gaz, a aussi fait 3 morts, 2 sapeurs-pompiers originaires de Lyon et de Savoie, ainsi qu'une touriste espagnole, sans parler d'une 50aine de blessés, dont 10 dans un état grave. Au total, ce sont 12 immeubles qui ont été touchés, qui vont rester inaccessibles durant au moins 48 heures, si ce n'est plus. Jules de Chris.
12 immeubles sont ce matin encore inaccessibles. Interdiction d'y pénétrer sur ordre de la préfecture de police de Paris car ils ont subi des dommages structurels. Ils sont fragilisés vu la violence de l'explosion. Il est donc bien trop dangereux d'y pénétrer. D'autres immeubles alentours sont moins touchés. Pas de problème de structure, mais leurs habitants ne peuvent pas pour autant retourner y vivre. C'est ce que nous explique Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité.
La préfecture de police continue à travailler sur les autres immeubles pour voir comment on permet aux personnes de pouvoir intégrer leur logement, que ce soit pour aller y récupérer des effets personnels ou pour les réintégrer. Il y a des logements qui, les immeubles vont bien, mais il n'y a plus de fenêtres et donc les gens ne peuvent pas y retourner vivre.
Des immeubles qui ne sont pas habitables, d'autres encore condamnés. La ville de Paris a reçu 130 demandes de relogement dès hier dans la cellule de crise ouverte dans la mairie du 9e arrondissement. Il y a cet accompagnement-là et l'accompagnement psychologique également, une prise en charge qui passe par cette cellule de crise, mais aussi dès demain dans les écoles par la présence de psychologues qui pourront répondre aux questions des élèves touchés de près ou de loin par cette catastrophe.
Jules de Kiss, une cellule d'aide aux victimes qui a immédiatement été mise en place, vous l'avez entendu, va rester ouverte toute cette journée de dimanche. Quant aux riverains évacués et aux touristes résidant dans les hôtels de la rue, ils sont tous, selon la mairie du 9e arrondissement, été momentanément hébergés ou bien relogés.
Retour ce matin sur ce 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes à travers toute la France.
Des Gilets jaunes qui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ont été plus nombreux que samedi dernier. 84 000 selon la place Beauvau dans toute la France contre 50 000 le 5 janvier, dont 8 000 à Paris, 6 000 à Bourges, l'épicentre du mouvement hier, mais aussi Bordeaux et Toulouse, 5 000 à Saint-Étienne et à Marseille. Marseille, où comme dans d'autres villes de France, le mouvement a parfois dégénéré dans l'après-midi lors de la dispersion. Reportage à Marseille, signé Olivier Martoc.
Des chants, des slogans contre Emmanuel Macron et le gouvernement. Marseille a connu hier son plus gros défilé de gilets jaunes. Dans les rues étroites et commerçantes du centre-ville, ils croisaient les Marseillais venus faire les soldes. Pas de tension, aucune animosité de part et d'autre. Et toujours des revendications autour du pouvoir d'achat. Thierry Dechaume est le référent pour la Côte Bleue.
Il faut tout simplement que ce gouvernement accompagne les aspirations des Français. 30 années d'une politique qui nous a dégradé nos conditions de vie, et bien maintenant, fini.
Au bout de 2 heures, la police a sifflé la fin de la manif de façon musclée, en bloquant le cortège sur le cours Belzins, à 200 mètres du Vieux-Port, colère d'une jeune retraitée, Cathy.
On est parqués comme des animaux. Eux, ils ont la possibilité de nous jeter des lacrymogènes à volonté. Nous, on n'a plus le droit de se mettre de masque. On n'a droit à rien. Nos ancêtres, ils se sont battus pour qu'on ait cette liberté et ces droits. Et tous les samedis, s'il faut, moi, je viendrai manifester. Et ça, c'est non.
Il n'y a pas eu de casse. Les Gilets jaunes ont été surpris de se retrouver si nombreux hier à Marseille. C'était le plus gros cortège enregistré ici depuis le début du mouvement. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Plus de monde dans les rues donc que samedi dernier, moins de débordements. Certes, quelques affrontements ont éclaté en fin d'après-midi à Bordeaux, Lille, Nîmes, Nantes, au Mans, à Toulouse ou même à Bourges, sans oublier Paris, mais sans commune mesure avec ceux du 5 janvier, en dépit de quelques blessés de part et d'autre. La responsabilité l'a emporté sur la tentation de l'affrontement, s'est même félicité le ministre de l'Intérieur, indiquant que le dispositif de sécurité de 80 000 membres de forces de sécurité n'y était pas pour rien et renvoyant maintenant l'évolution de la situation au grand grand débat national qui commencera mardi. Une vaste consultation censée apaiser la colère et ramener le calme qui pourtant est loin de faire l'unanimité au sein des Gilets jaunes si l'on en croit cet habitant de Seine-Saint-Denis.
On considère qu'on n'a pas eu la moindre réponse concrète. Il y a un ressentiment général qu'il y a juste un gain de temps en fait qui est fait. On n'a aucun message concret, un message fort qui permet de faire croire aux gens qu'ils ont été entendus un minimum. Je suis là depuis l'acte 2. On va dire qu'il y a une escalade des choses. Et les seuls retours qu'on a du gouvernement en dehors des messages de mesures de sécurité de M. Castaner, c'est un message enregistré de notre président qui va parler dans la globalité des mesures qu'il prend et puis de sa ligne directrice. Mais pas un seul moment il cite les Gilets jaunes. Vous vous dites que c'est des gens qui ne sont pas capables de comprendre ce que vous faites. Et bien expliquez-leur alors. Montrez-leur et justement répondez à leurs revendications. Il nous parle de grands débats nationaux, mais avec des sujets qui sont déjà exclus. C'est-à-dire qu'on va discuter des choses que je veux qu'on discute, pas du reste. Il n'y a pas meilleur moyen d'exclure les problèmes en fin de compte.
Des propos recueillis par Sébastien Sabiron. Pour lancer ce grand débat, Emmanuel Macron se rendra mardi dans une petite commune de l'Eure. Le chef de l'État qui au préalable rendra public demain, lundi, sa lettre aux Français, lettre dans laquelle le président de la République entend expliquer les finalités de ce débat.
En dépit des pourparlers et des négociations de paix, le calme peine à revenir au Yémen. Le Yémen qui est engagé depuis plus de 3 ans maintenant dans un conflit meurtrier.
Conflit entre les rebelles houthis et les forces pro-gouvernementales appuyées de part et d'autre par des puissances étrangères qui, selon l'OMS, auraient fait plus de 10 000 morts depuis 2015, alors que l'ONU, elle, estime que 20 millions de personnes sont menacées de famine dans la région. C'est pour tenter de faire bouger les choses que 16 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont décidé d'adresser une lettre aux députés français pour les sensibiliser au rôle exercé par la France dans ce conflit. Une prise de position à la fois politique et juridique, comme l'explique l'un des signataires de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, Antoine Madelin, jouant téléphone par Nadine Epstein.
On a besoin que l'Assemblée nationale française aujourd'hui réalise le rôle de la France dans le conflit au Yémen et rappelle la France à ses obligations internationales puisque la France est partie à un traité international dans lequel elle s'engage à ne pas vendre des armes si ces armes peuvent être utilisées pour commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En pratique, on a documenté que la France avait alimenté la coalition saoudienne et les Émirats arabes unis dans le contexte de la guerre au Yémen. Et on a souhaité que le Parlement puisse intervenir pour contrôler ces ventes d'armes et demander la suspension de ces ventes d'armes comme l'ont fait d'autres parlements européens. On est à un moment où des négociations de paix fragiles commencent au niveau international. Il est très important de dire très clairement aux autorités saoudiennes et des Émirats arabes unis que la France cessera de soutenir ce conflit.
Le reste de l'actualité à l'étranger, en bref, en cavale, l'ancien militant italien d'extrême gauche, Cesare Battisti, a été arrêté en Bolivie, condamné à la réclusion à perpétuité par contumace en Italie en 1993. Cesare Battisti est accusé par la justice italienne pour 4 meurtres et complicité de meurtre dans les années 70. Après avoir passé près de 15 ans en France, l'ancien militant s'était exilé au Brésil en 2004, le Brésil où il devrait prochainement être ramené avant une probable extradition vers l'Italie.
Du cinéma. Pour refermer votre journal, Serge, avec la sortie cette semaine d'un thriller fantastique.
L'heure de la sortie, c'est le titre de ce film réalisé par Sébastien Marnier. Film mettant en scène un groupe de collégiens sans espoir dont Laurent Lafitte va tenter de percer le secret, Corinne Pellissier.
Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines.
Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse.
On les découvre à travers les yeux de leur nouveau professeur de français, Laurent Lafitte. Le précédent s'est défenestré pendant les cours sous leurs yeux. Un petit groupe d'élèves hors du commun, des surdoués comme on dit, promis aux plus belles écoles, aux plus prestigieux parcours, mais qui dissimulent un très lourd secret.
Pourquoi vous faites ça ?
Vous voulez pas voir la vérité en face ?
Il n'y a plus d'avenir.
Tous les jours, à la sortie des cours, ils se retrouvent pour s'infliger des sévices et s'entraîner à ne plus rien ressentir. Des collégiens sans espoir dans un monde en décrépitude où, pour s'endurcir, on regarde en boucle des vidéos de catastrophes nucléaires ou écologiques.
C'est fini vos conneries là ?
C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites.
La fin est proche, eux l'ont compris et sont sûrs de leur choix. Laurent Lafitte, lui, beaucoup moins, et va se mettre à suivre et espionner ce petit groupe aux attitudes si déroutantes. Tous les codes du genre sont là, les coups de fil anonymes, les hallucinations, la musique inquiétante du groupe Zombie-Zombie. Mais sous ses allures de thriller fantastique et son atmosphère étouffante, le film est d'abord une fable politique sur les angoisses de la jeunesse, verbalisée dès 2002 dans le roman de Christophe Dufossé dont est tiré le film, bien avant les marches pour le climat ou la démission de Nicolas Hulot.
L'heure de la sortie avec Laurent Lafitte depuis mercredi au cinéma. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.